Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground.
Bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Comment ne pas s'interroger sur la perception de l'actualité par nos enfants ? Je crois pouvoir dire que le bien-être de nos bébés, bambins et ados, leurs émotions et leurs ressentis sont au cœur de nos préoccupations avant même leur conception. Parce qu'on le sait, une partie de la société n'est pas prête à laisser nos familles vivre en paix. Elle s'octroie même un droit de regard sur elles, voire un droit de les légitimer. Et pour cela, ils font du bruit, enrôlent leurs enfants à eux et diffusent des propos violents qui peuvent arriver aux oreilles des plus petits comme des plus grands. Si l'injustice est très largement perceptible pour nous, adultes, face à cette déferlante de haine et de jugement, qu'en est-il pour nos enfants et surtout, comment devons-nous leur expliquer l'inexplicable, l'intolérable, l'incompréhensible ? Natacha, hâte la curiosité bienveillante, psychologue spécialisée en périnatalité, nous apporte avec justesse des éléments de réponse et surtout nous explique leur mode de fonctionnement et de pensée. Si cela n'excuse rien, nous avons de notre côté au moins le mérite de chercher à comprendre leur schéma cognitif pour pouvoir armer nos enfants au mieux et les protéger. Je vous souhaite une bonne écoute. PS, vous pourrez le constater, la bande-son de Natacha n'est pas très qualitative et je m'en excuse. Je suis en train de trouver des solutions pour remédier à ces soucis récurrents de qualité. J'espère que cela n'altérera pas la qualité de l'échange. Place à l'épisode. Bonsoir Natacha.
Bonsoir Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible à ma demande pour un nouvel enregistrement concernant alors aujourd'hui un sujet qui est hyper d'actualité. J'en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure pour commencer. Est-ce que tu peux te représenter ? Alors, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on enregistre ensemble, donc je pense que nos auditeurs te connaissent, mais au cas où, est-ce que tu peux te représenter s'il te plaît ?
Oui, alors bien sûr. Alors, je m'appelle Natacha Busbach, je suis psychologue spécialisée en périnatalité et accompagnement parental. Je suis moi-même maman queer et solo, en l'occurrence. Et donc, j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle La Curiosité Bienveillante, où je partage pas mal de contenu par rapport à la parentalité et à plein de sujets de société.
Exactement. Compte à aller fouiller parce qu'il y a des réponses, enfin, il y a beaucoup de réponses à des questions qu'on peut se poser et qui nous armeront. Pour la suite de notre parentalité. Donc aujourd'hui, on se retrouve, Natacha, pour parler d'un sujet, donc, comme je disais, hautement d'actualité, puisque on va traiter du discours qu'on doit tenir à nos enfants face aux images qu'ils peuvent voir, des manifestations liées à la loi bioéthique, donc des manifestations des personnes qui sont contre cette loi, donc essentiellement, effectivement, la manif pour tous. Mmh. C'est vrai que nos enfants sont confrontés à cette réalité-là et la question essentielle de ce soir va être de répondre à comment nous, on réagit et quel est le discours que l'on doit tenir.
C'est ça, c'est le sujet qu'on avait pensé aborder et donc dans cette optique-là, je pensais voilà, pouvoir mettre déjà en évidence quels sont les différents axes de développement, de discussion qu'on peut avoir avec les enfants en fonction de leur âge et puis quelles attitudes en fait... développer aussi envers les personnes en fait qui ont ces valeurs là hein, anti PMA pour
oui.
toutes.
Oui voilà. Oui parce que effectivement tu le soulignes très très bien. Déjà pour commencer, il va y avoir une notion d'âge des enfants qui vont être confrontés à ces images parce que ces images elles sont parlantes essentiellement quand on enfin beaucoup quand on lit les panneaux si on n'écoute pas forcément le discours. Et donc, du coup, ça, ben voilà, il y a vraiment une notion d'âge déjà d'apprentissage de la lecture. Combien tu considères qu'on doit aborder, et si on doit aborder ce thème avec les enfants, et à partir de quel âge ?
Moi, je pense qu'il faut d'abord s'orienter sur la façon dont on ressent les choses et la façon dont on s'expose à ces choses-là. Parce qu'évidemment, par exemple, alors cette année, je ne sais pas si ça a eu lieu, mais il y a plein de familles homo qui vont défiler, par exemple, à la Gay Pride, aux différentes prides dans le monde, pour montrer à quel point l'homoparentalité peut aussi être dans une notion de militantisme aussi. Dans ces cas-là, et ça vaut aussi pour les manifestations féministes où on emmène des enfants. D'ailleurs, la Manif pour tous endoctrine, entre guillemets, aussi les enfants, hein, clairement. Et donc, on peut pouvoir aussi voir...
Oui, j'allais y venir, justement.
Ouais, justement, on peut voir comme ça dans quelle mesure est-ce que, déjà, sa propre famille est impliquée par rapport aux différents éléments et par rapport aux différentes sexualités. Il y a des parents qui vont être assez déconnectés de ça, qui vont ne pas se renseigner, ne pas avoir même de télévision, ne pas allumer la radio sur ces sujets-là, vont considérer que ces gens ont juste des valeurs très différentes des leurs et considèrent que, de toute façon, ce n'est pas eux qui font les lois. Donc, ils s'abstiennent même d'en parler et ça ne touche pas plus que ça. À partir de là, ça ne pose pas vraiment de problème tant que les enfants eux-mêmes ne sont pas confrontés à des propos ou des actes qui visent, entre guillemets, leur propre existence. Et donc, dans ces cas-là, c'est plus simple de pouvoir quasiment ignorer le sujet tant qu'on n'est pas touché par le sujet, en fait.
Oui, voilà. Bah, et je t'avoue que nous, on fait partie de cette catégorie-là.
Oui, c'est ça. Bah, de mon côté aussi, pour être honnête, hein, jusqu'à présent. D'un autre côté, il y a des fois où l'actualité, par exemple, va me saisir, ou va saisir d'autres familles, etc., ou que c'est des gens qui sont vraiment dans un grand militantisme et une grande force d'action par rapport à ça, où clairement, chaque rebondissement va vraiment les faire bouillir intérieurement. Et là, je pense que moi, clairement, les derniers rebondissements m'ont vraiment fait bouillir personnellement. Donc, je me suis dit, OK, clairement, comme moi, j'ai réagi aussi par rapport à l'instruction en famille. J'ai expliqué à ma fille ce qui me faisait réagir, par exemple. Hein, et on explique, en fait, ce qui nous fait réagir et pourquoi ça nous fait réagir. Alors, évidemment, c'est là qu'on va adapter son discours en fonction des enfants. Et qu'on va surtout parler de son ressenti, de les émotions qu'on ressent, en étant toujours dans une optique où on va s'orienter sur ce que l'enfant peut comprendre de la situation. Et c'est pour ça que quand ils sont tout petits, on peut dire par exemple, je pense aux enfants qui ont 2-3 ans, et ben voilà, je suis énervée parce qu'il y a des gens qui militent contre nos familles. Et en fait, à cet âge-là, c'est un concept assez abstrait, et donc ils vont dire, oh, oui, très bien, bon, ça s'arrête là. Mais au moins, on a dit les choses comme on les ressentait. Et puis plus tard, évidemment, si par exemple, notamment les enfants ont été confrontés à des images, ont été confrontés parfois même à des propos, hein, j'imagine que si un jour on se fait surprendre par une manif pour tous avec des propos hyper dégradants et que c'est une famille homo qui se balade à ce moment-là, je ne suis pas sûre que les militants soient hyper tendres et donc peut-être que les enfants peuvent assister à des choses comme ça ou entendre à l'école des propos par d'autres enfants qui répètent ce que les adultes leur ont dit. Et donc, quand ils apprennent qu'un enfant a deux mamans ou qu'une seule maman ou deux papas vont avoir des propos qui vont être clairement discriminants à son égard. Et là, évidemment, la question, ça va être de se pencher sur, tiens, quand on t'a dit ça, qu'est-ce que t'as ressenti ? Qu'est-ce que tu comprends de ce qu'il t'a dit ?
Oui, c'est ça qu'on veut vraiment protéger nos enfants, en fait. Et c'est vrai que il y a deux façons de protéger nos enfants. Soit en n'en parlant pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est clairement ignorer ou faire l'autruche. Hein. Mm-hmm. Et à un moment donné, il va quand même falloir expliquer. Et ça, oui. Et ça, je sais que moi, je commence à arriver dans l'âge où il va falloir que je pose des mots et que la réalité, en tout cas, mes enfants vont se confronter à la réalité. Et puis, tu as sinon, effectivement, la transparence totale, mais où là, tu touches à la candeur, je pense, de l'enfant. Dans sa famille, en tout cas. Voilà, c'est vraiment les deux possibilités.
Oui, et je pense que, comme tu le disais, en fait, la première possibilité, elle est juste très temporaire. Parce qu'il y a un moment où, forcément, il y a une réalité qui va être très tangible, puisqu'il y a un moment où ils vont se prendre les informations en pleine figure. Enfin, bon, pour être très, très honnête, on peut espérer que non, parce que peut-être qu'il y a un moment où ce mouvement va s'arrêter. Mais concrètement, là, aujourd'hui, pour les enfants qui ont 10, 11, 12, 15 ans, parce que ça dure quand même déjà depuis 9 ans cette histoire, donc quelque part
oui, complètement.
Quelque part là maintenant il faut bien mettre des mots sur les problématiques et donc expliquer à quel point en fait ces personnes-là ont des valeurs différentes, et d'abord partir sur « Ok, mais qu'est-ce que toi, t'as compris quoi de cette situation-là » Donc, en se basant sur « Ok, quelles sont les peurs que ça a pu engendrer chez l'enfant en question ?» Quelles sont les craintes que ça peut engendrer? Quels sont les questionnements que ça peut faire émerger? Parce que c'est peut-être aussi de là que vont émerger les questions par rapport à la génétique. Et à dire, tiens, ok, là, ces gens-là, ils disent un papa et une maman. Moi, théoriquement, je n'ai que deux mamans. Ou j'ai clairement, il y a peut-être un élément, en tout cas, génétique qui manque dans ma famille. Donc, ça veut dire qu'on a toujours... Souvent, c'est ce qui se passe, hein. Toujours raconter mon histoire, mais peut-être que là, la pièce tombe, en fait. Il y a toujours un moment où la pièce tombe. Et donc là, peut-être que c'est ce moment-là où la pièce va tomber, de se dire, tiens, en fait, vraiment, oui, en effet, je n'ai pas une histoire de conception identique à celle de la majorité des enfants qui sont faits au sein d'un couple hétéro, ou même s'il y a quand même une personne sur six qui finit en PMA, la grande majorité est conçue naturellement et sans intervention médicale et sans donneur.
Ouais, ouais, complètement. Après, c'est sûr que voilà, le dialogue qu'on peut avoir par rapport à la manif pour tous, enfin en tout cas aux manifestations du moment, il va ouvrir sur d'autres questions qui peut-être n'ont pas été abordées ou qui peut-être l'ont déjà été. Tu vois, techniquement, enfin bon, pas techniquement, mais tu vois, nous déjà, on a abordé tous ces sujets-là pour expliquer notre famille à nos enfants. Donc elles savent, elles sont au courant. Par contre, moi, ce qui m'arrête, c'est de les confronter à la violence, en fait, de la société, finalement.
Ouais.
Enfin, alors, attention, hein, d'une frange de la société.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et je comprends, et c'est sûr que c'est extrêmement dur de se dire qu'il y a une partie de la population qui milite concrètement pour le fait que nos enfants n'existent pas, en fait, et que nos familles n'existent pas, elles ne soient jamais reconnues en tant que telles. Et ça, c'est assez violent, parce qu'en effet, ça te dénie une partie de ton identité. Et donc, la question, c'est de se dire, en effet... Ok, à partir du moment quand est-ce que ce truc-là est ressenti et comment est-ce qu'on peut entre guillemets s'armer par rapport à ça, parce que malheureusement on doit parler presque dans un langage militaire comme ça, parce que les propos, la violence, certes peut être combattue par une absolue non-violence, etc. D'un autre côté, ça remue des choses qui peuvent être très fortes en soi, et d'autant plus pour les enfants, et se faire par exemple harponner en cours de récréation ou avoir des propos extrêmement désagréables. Je sais pas, moi, imaginons, hein, toi, par exemple, une de tes filles qui devient super amie avec quelqu'un et tu découvres plus tard que c'est quelqu'un qui une famille qui fait partie d'un manif pour tous, alors que tu savais pas au départ parce que vous saviez pas forcément que vous étiez deux mamans. Et ben, cette personne-là va peut-être, ta fille va peut-être recevoir des commentaires négatifs et peut-être qu'au contraire, peut-être qu'il va y avoir un revirement de situation aussi dans leur perspective à eux, parce qu'ils vont peut-être se rendre compte que ta fille n'est pas du tout, le prototype de ce qu'il pensait être l'enfant issu d'un couple queer. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui peut se dire être intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément il va pas forcément y avoir de la violence, forcément, mais il y en a. La société comprend de la violence. Clairement, parler tout de suite du fait que, bah oui, écoute ma chérie, c'est sûr qu'aujourd'hui, être queer dans la société, on peut encore se faire tabasser dans la rue. Et ça vaut en fait pour toutes les discriminations, quelles qu'elles soient. Les discriminations systémiques sont par essence extrêmement violentes parce qu'en plus elles sont renforcées par le système. Et en l'occurrence, là, à partir du moment où les lois bioéthiques vont à l'encontre de l'existence ou de la reconnaissance totale et pleine de nos familles, c'est une violence systémique en fait.
Oui, complètement. Enfin, on est clairement dans une violence systémique. Là-dessus, je pense qu'il n'y a, a même pas de débat. Et alors, pour en revenir du coup à cette notion d'âge, quels sont les mots qu'on doit employer ? Parce que, évidemment, le vocabulaire des enfants n'est pas le même en fonction de leur évolution. Quels sont les mots qu'on peut. Donc, tu parlais de 2-3 ans, donc expliquer le pourquoi toi ça te met en colère en adaptant le discours. À partir de quel âge on rentre vraiment dans le détail en fait ?
Bah écoute, vers 2-3 ans, tu peux dire par exemple que tu es en colère par rapport au fait qu'il y ait des gens qui ne reconnaissent pas le fait que nos familles soient de vraies familles et qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas. Et en fait, plus tard, au fur et à mesure, en fait, je pense que rester sur cette ligne de mire de « ok, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas nos familles, qui ne comprennent pas le fait qu'en fait, bah, deux femmes peuvent avoir des enfants parce qu'en effet, biologiquement, deux femmes ensemble ne peuvent pas avoir d'enfants. Et il y a des gens qui pensent qu'il y a seulement un homme et une femme qui peuvent avoir des enfants ensemble. Et ça veut dire que ça va confronter leurs valeurs, que ce ne soit pas le cas. Comme ça pourrait confronter tes valeurs, je ne sais pas moi, que ici on mange du chien, du chat, etc. Eh bien, ça va confronter leurs valeurs à eux. Et eux, ça leur fait peur. parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'il y a derrière. Et je pense que partir sur une logique où on va essayer de faire comprendre à l'enfant que, aux enfants que ces gens-là ne sont pas fondamentalement véhéments envers nos individualités, mais surtout par rapport à une logique globale et par rapport au fait que ça va à l'encontre de leurs valeurs. Et ben en fait, ça permet aussi de ne pas prendre les choses personnellement très à cœur et ne pas se sentir blessés eux-mêmes là-dedans. Parce que évidemment, ils sont touchés par la question, mais l'objectif, c'est pas d'attiser de la haine chez eux, de se dire qu'ils vont qu'on va les préparer à être prêts à en découdre. Mais par contre, on peut se dire, ok, il y a des gens qui vont pas nous comprendre, il y a des gens qui pourront nous comprendre, et il y a des fois où tu peux y répondre. Si tu te sens capable d'y répondre et que quelqu'un en face de toi te dit une remarque et que tu lui réponds et qu'il y a une discussion qui peut s'enclencher. Mais si tu te sens attaqué et tu sens qu'il y a de l'agressivité en face, tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux juste dire « on ne se comprend pas, donc je n'ai pas envie de parler ». Par exemple, si c'est vraiment un affrontement direct. Par rapport à la situation globale, imaginons, je tombe sur un enfant qui a 9-10 ans, qui tombe sur les manifs, qui voit les panneaux et qui fait « mais ok, c'est quoi, pourquoi tant de violence par rapport à ça ?» Et je pense que là, c'est la même chose, en fait. C'est essayer de vraiment entrer en empathie avec ces gens-là. C'est comprendre vraiment la façon, disons, et pourquoi, quel est le schéma cognitif qu'ils ont derrière tout ça, quel est le schéma de pensée qu'ils ont derrière tout ça et pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. Pour leur montrer, en fait, que fondamentalement, c'est de la peur qu'ils ont derrière tout ça. Une espèce de crainte de l'effondrement de la société, etc. Et tous leurs arguments, hein, voilà. Et se dire, ok, toi et moi, on sait bien, on voit bien, on vit dans une réalité qui semble manifestement une réalité parallèle à la réalité dont ont peur ces gens-là, en fait.
Oui, c'est vrai que c'est très important d'identifier le fait que c'est surtout de la peur et très probablement un gros manque d'information qui fait que ces gens-là, ils se recroquevillent sur sur ce qu'ils connaissent, en fait, et ils protègent ce noyau-là.
Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment, de toute façon, comme beaucoup de choses, hein, c'est vraiment mu par la peur, mu par la crainte d'une destruction sociétale, etc., parce que il faut bien reconnaître que la société quand même évolue pas mal et en quelques, on va dire en une dizaine de décennies, hein, ça a quand même beaucoup évolué. Et donc forcément, l'évolution rapide peut faire très peur à certaines personnes. Et je pense qu'on a tous des sujets qui peuvent nous choquer un petit peu, etc. Et globalement, voilà, c'est surtout ça sur lequel il faut miser. Maintenant, je pense que le plus important, c'est toujours se fier à ce que les enfants eux-mêmes vont percevoir de la chose avant même de vouloir expliquer les choses en détail, etc. Après, plus les années passent et plus ils peuvent comprendre de choses, etc. Mais vraiment se fier sur, ok, toi tu comprends quoi de ce que tu vois, en fait là t'as vu quelque chose, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu crois avoir vu, qu'est-ce que t'as perçu de ça, en fait. Et c'est en partant vraiment du discours des enfants qu'on peut construire quelque chose qui va aller vraiment rencontrer leur peur à eux par rapport à ça, parce que être confronté à de la violence, ça engendre de la peur. Et donc, ok, quelles sont leurs peurs à eux? Parce que les peurs que les enfants vont avoir par rapport à ce discours-là ne vont pas forcément être les mêmes peurs que nous, dans le sens où notre fil perceptif d'adulte et de connaissance du sujet va nous faire, par exemple, dire, ok, ces gens-là, en fait, ils veulent anéantir nos familles et faire en sorte qu'on n'existe pas du tout. Alors que peut-être que les enfants vont se dire, ok, peut-être que finalement, ces gens-là, ils sont très violents et peut-être que j'ai peur pour mon intégrité personnelle, tu vois, alors que je suis quasiment sûr que les gens de la manière pour tous, jamais ils iraient trucider un gamin sur la place publique, tu vois. Tu vois, c'est pas trop le projet, quoi. Donc la question,
ça c'est sûr.
c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de se fier, ok, à leur peur à eux et de voir un peu qu'est-ce qui les anime eux personnellement, et c'est des choses qui vont évoluer au fur et à mesure. Et je ne peux pas ignorer le fait qu'aujourd'hui, on le voit, on le sait, il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là, qu'il y a des enfants qui ont été embrigadés tout petits dans les manifs pour tous, qui ont grandi et qui étaient finalement des personnes LGBT. Hein.
Oui, il paraît.
Et qui aujourd'hui se disent, mais waouh, quoi, j'ai été gamin, moi, dans les manifs pour tous, parce que j'étais dans une famille qui avait ces valeurs-là, et pourtant, finalement, moi, je suis LGBT, moi, voilà, et je ne sais pas, et ça c'est hyper violent pour la personne qui a vécu ça. Et en fait, ça veut dire aussi qu'il va y avoir toute une mouvance, et je pense que les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'ils vont disparaître d'ici là, a priori. Il y a toutes des mouvances aujourd'hui de groupements, hein, de comptes, hein, clairement, sur génération, on ne lâche rien, voilà, pour ne pas le citer. qui vont être en fait des jeunes qu'ils endoctrinent avec clairement des codes, des pensées, etc. toutes faites hein, mm-hmm. Par rapport à ces sujets-là. Et il va y avoir un moment, je pense, un désaffrontement en fait. Hein. Et comme il y a déjà des affrontements qui peuvent se passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que en fait, la réseaux sociaux nous crée des bulles dans lesquelles on évolue chacun dans notre bulle. Et puis un jour, quand les bulles se rencontrent, bah, ça explose, ça se cristallise et c'est hyper violent. Et je pense que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui vont grandir et qui vont se confronter à ces choses-là. Et peut-être qu'il y aura de la violence qui émergera à ce moment-là, de la violence psychologique, physique, que sais-je. Bon, et ça, c'est là aussi qu'il faut voir aussi comment est-ce qu'on peut accompagner aussi des enfants devenus ados, en fait, là-dedans. Oui. Parce que je pense que autant quand c'est des enfants, ils peuvent très mal le vivre et puis ils peuvent se fier plutôt assez bien à la façon dont les parents réagissent et à la décontraction ou la non-décontraction des parents, le militantisme éventuel, etc. Mais quand on a, par exemple, des enfants qui grandissent et qui vont se faire insulter, qui vont avoir des remarques, etc., là, forcément, il peut y avoir des comportements et des réactions qui peuvent être beaucoup plus vives et violentes. Et je pense que c'est là aussi, il faut avoir un impact. On peut discuter, en fait, des choses très concrètement et très frontalement, tout en... évidemment, essayant de dégrossir les envies de violence, même si, pour moi, dire que la violence n'existe pas et qu'il faut absolument pas répondre par la violence, c'est une aberration, parce qu'on va pas dire à un gamin qui se fait tabasser, admettons, hein, parce que ça existe encore, tu te fais tabasser, ne réagis pas. Bah, évidemment que non. On va espérer qu'il puisse se défendre un minimum, et puis pouvoir ensuite bénéficier d'une médiation par un encadrement. Et là, évidemment, très pratiquement, je pense à un encadrement scolaire ou sportif, où ce serait dans un phénomène de groupe où ça pourrait se passer comme ça, où il y aurait des adultes qui pourraient faire des médiations par rapport à ça, dans le sens où clairement ça ne peut pas rester latent comme ça avec des agressions, que ce soit verbales ou physiques, qui peuvent se produire pour des raisons de conflit de valeurs. Mais en même sens, en fait, c'est exactement la même manière d'aborder aussi les questions de racisme.
Oui, complètement.
Moi, il y a Rocalla Diallo qui a fait un livre. Comment parler à nos enfants du racisme ? Et je pense que ça peut être une très bonne base en termes de lecture hein, pour parler de toutes les discriminations. Et donc, et l'homophobie est une discrimination comme l'autre.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais juste en revenir, du coup, à nos enfants adolescents qui actuellement même déjà peuvent se retrouver confrontés à la violence. Des propos qui peuvent être tenus sur les réseaux sociaux et sur lesquels donc nous on n'a aucune maîtrise et aucune emprise, on va dire. Est-ce que tu invites toi à discuter justement à ce moment-là, à ouvrir la discussion sans évidemment savoir du coup ce qu'il peut avoir vu, lu, entendu pour essayer de dégrossir et de déverrouiller le harcèlement dont il pourrait être l'objet.
Moi, j'ai tendance à dire que l'information, ça va être la clé de la sortie du problème. Et que quand on est, par exemple, alors si on est pris à partie directement, bah, évidemment, l'optique, alors on peut choisir soit de ne pas répondre du tout, d'ignorer la chose, et ça fait toujours mal, hein, mais bon, on a toujours des haters sur Internet, hein, ça existe toujours, il y en aura toujours, je pense. Et ça fait toujours plus mal, hein, on peut avoir 100 commentaires positifs, avoir une personne qui va descendre ce qu'on fait, c'est trop compliqué. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est initier l'action, en fait, et dire, bah, écoute, tu sais quoi, tes valeurs, t'as le droit de les porter, en fait. Et donc, quitte à faire sur les réseaux sociaux, si t'es sur les réseaux sociaux et que t'as des valeurs, eh ben, porte-les haut et fort, en fait. Tu peux créer du contenu sur le sujet, tu peux t'exprimer sur le sujet. Alors, bien sûr, ça expose les valeurs et les avis, etc. Mais au moins, la personne qui a été attaquée ou la personne qui veut faire comprendre qu'en fait, sa famille, sa façon de fonctionner, son existence est quelque chose de totalement... Bah c'est horriblement banal, en fait, hein, l'existence de nos familles, hein, voilà, et ben, peut le mettre en avant, en fait.
Oui, oui, clairement.
Et mettre en évidence à quel point la façon dont ils le vivent.
Ça va vraiment dépendre de la personnalité de l'adolescent que tu as en face, parce que les adolescents, ils restent quand même, je te parle en non-connaissance de cause, mais les adolescents, enfin, s'exposer, c'est compliqué. C'est pas la meilleure période de la vie pour s'exposer, pour défendre des valeurs, mais à côté de ça, t'as quand même, enfin, t'as aussi l'idéal. Cet idéal d'enfant, d'ado, de futur adulte, qui n'est pas encore grévé par la société ou par les dictats, en fait, et les normes.
Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est en effet une question totalement de personnalité, de tempérament que l'ado va avoir à ce moment-là, de te dire, OK, comment est-ce que lui vit la chose. En fait, ça se trouve, tu auras plein d'ados qui vont se retrouver confrontés à des gens qui vont avoir des propos peut-être négatifs à leur encontre. Et je pense quand même, enfin, si on regarde les choses très concrètement, les gens de la Manif pour tous, c'est quand même une très très faible majorité, une très faible minorité de la population. Ce qui veut dire que aujourd'hui, dans les lycées, quand on entend les gamins parler du fait d'être LGBTQIA+, d'avoir un rapport à l'amour différent, etc., c'est quand même vachement plus détendu qu'à une époque. Et donc, je pense que de plus en plus, ce sera beaucoup plus détendu et beaucoup plus calme par rapport à ça. Ça n'empêchera pas de pouvoir être confronté à des propos dans certaines sphères, hein, bien sûr, mais je pense que ce sera déjà de moins en moins le cas. Si c'est le cas, ça va dépendre de la façon dont réagit cet ado-là. Il y en a qui pourront être extrêmement affectés et d'autres qui pourront peut-être considérer que, bon, écoute, parler avec des cons, ça ne sert à rien.
Oui. Et je crois que c'est surtout ça le message qu'il faut faire passer.
Oui, après, ça peut, ben bien sûr, mais ça peut très bien être une perception de la vie qui sauve, en fait, qui sauve psychiquement, hein, de dire, bah, écoute, ils sont trop cons, autant ne pas parler avec eux. Et puis, il y a des ans, et puis peut-être que dans certains cas, plus tard, ou même à ce moment-là, hein, il y a des ados qui vont préférer parlementer en disant, écoute, moi, clairement, ce que tu dis là, c'est pas comme ça que je le vis, mon existence, elle est comme ça, comme ça, comme ça, tu peux croire ce que tu veux, mais moi, je vis ça comme ça, et c'est ma réalité, en fait. Et il y a aussi là, c'est la perception de réalité et de perception différente. C'est qu'en fait, on a tous des filtres très différents par rapport à nos existences et que j'avoue que ce serait plutôt pas mal si chacun se contentait de parler de son propre filtre. Et je crois que c'est la notion la plus importante à pouvoir partager, c'est ça, c'est de se dire, OK, parlons bien de nos filtres. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais dans ton podcast, hein, c'est le fait de bien mettre en évidence les propos des gens qui sont concernés par le sujet. Et puis, les autres ont leur tribune, hein, petite ou grande. Mais concrètement, de toute façon, quelqu'un qui a des valeurs clairement très enracinées au niveau réac, au niveau prise de position sociétale, bon, bah, ne va pas être d'accord avec nos choix de vie. Bon, bah, peut-être que nous ne sommes pas d'accord avec les siennes. Et puis, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les choses cohabitent sans trop
se porter. Oui, complètement. Mais c'est ça qui peut être difficile à expliquer à nos enfants. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je galère un petit peu parce que, aujourd'hui, on se retrouve face à des personnes qui ne vivent pas nos réalités, qui prennent des décisions pour nous, tu vois. Et on se demande pourquoi ces gens-là militent pour quelque chose qui les concerne pas. Alors, évidemment, je suis pas concernée par le racisme, mais pour autant, je vais aller militer contre le racisme parce que je me sens finalement quand même concernée. Donc, tu vois, c'est complètement antinomique ce que je te raconte. Mais c'est vrai que moi, je vais pas prendre une décision pour la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Et là, ce sont des gens qui alors, pas l'MBT, mais en tout cas, tu vois, le Sénat, aujourd'hui, est capable de prendre une décision qui va engager nos vies à nous sans prendre de l'information auprès des personnes qui vivent cette vie-là.
Non, je pense que malheureusement, ça, les instances, les hautes instances dirigeantes et même l'organisation globale, le système, en fait, ce qui fait fonctionner le système, va souvent être dans une espèce de préservation du système. Et une espèce de préservation de se dire, OK, si on change quelque chose de majeur, peut-être qu'il va se passer des choses qu'on ne pourra pas contrôler, qui vont sortir de notre cadre actuel. Peut-être qu'on ne saura pas le gérer. Alors, évitons le moindre risque et ne prenons pas de risque. Et donc, restons sur le statut de ce qu'on connaît le plus et arguons avec la bioéthique. Alors que techniquement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, toi, moi, Instagram est un terreau magnifique pour ça, de fertilité, de déconstruction féministe, queer, rêve de connaissances, de discrimination sur le racisme, etc. Et de plus en plus, sur la transphobie notamment aussi, on peut savoir comment on vit les autres, comment on perçoit les autres, comment appréhender les autres, mais ça nécessite une déconstruction en fait. Et la déconstruction, elle est très énergivore.
Ouais,
elle peut même faire peur. Elle peut faire peur aussi, parce qu'on se dit, merde, la perspective que j'ai sur le monde, l'envie. En fait, elle est fausse. Elle nécessite d'avoir l'envie, tout à fait. Mais ça veut dire que peut-être que pendant très longtemps, tu as cru quelque chose, et puis en fait, tu te rends compte en écoutant les personnes concernées qu'en fait, pas du tout. On peut très bien dire aujourd'hui, ouais, mais aujourd'hui en France, le racisme, c'est anecdotique. Oui, mais non, en fait. Hein. Il suffit d'écouter des podcasts des enfants du bruit et de l'odeur et t'as compris que c'est tous en fait anecdotique, en fait.
C'est encore trop d'actualité.
C'est la même chose. Et pour la transphobie, c'est la même chose. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui des agressions, des commentaires et la loi qui ne va pas dans notre sens. Et je pense que c'est là une des choses les plus difficiles aujourd'hui, parce que nous, dans nos vies au quotidien, globalement, on est assez peu impacté si on prend au-dessus de la jambe les quelques détails administratifs très pénibles. Mais concrètement, la loi vient nous dire, en fait, techniquement, vous ne devriez pas exister. Et je crois que c'est là, en tant qu'adulte, que c'est le plus compliqué. Parce que techniquement, ça nous blesse vraiment, ouais, nous, dans nos choix de vie, etc. C'est hyper violent. Et donc, ça veut dire aussi que les gens qui décident de ça, ce sont des gens qui, en effet, n'ont pas connaissance de ça, ou en tout cas, qui ne prennent pas la mesure de l'impact que ça peut avoir dans la construction des familles, dans la construction peut-être identitaire des enfants, en fait. Parce qu'en fait, là, ils sont en train d'interdire quelque chose, alors que la réalité de terrain, c'est que c'est déjà là. Et donc, ce qui est très... ce qui est quand même un peu fou, parce que c'est totalement dissocié comme façon de percevoir les choses. Donc c'est ça, je crois, qui crée le plus de colère et le plus d'amertume. C'est le fait que c'est totalement déconnecté de ce qui se passe. Mais il faut quand même se rendre compte que de tout temps, en fait, les lois n'ont jamais précédé l'évolution sociétale. L'évolution sociétale est partie de la base et elle a été entérinée par les lois. Et donc aujourd'hui, la France est extrêmement...
Et on le constate au quotidien, en fait, dans nos familles, ou dans nos quotidiens globalement. En fait, on constate qu'on est accepté partout, que ça ne pose de problème à personne, enfin, ou à très peu, en tout cas, que même des endroits ou dans des administrations où on devrait montrer patte blanche, ça passe sans problème, mais la loi est bloquée.
C'est ça. Alors que, concrètement, il peut y avoir des raisons de, par exemple, de se dire que, je ne sais pas, moi... dans certaines conditions d'instabilité psychologique, de ne pas avoir d'enfant en étant seul, par exemple, hein, pour prendre mon cas personnel, ou que le couple peut-être semble très instable, ne pas donner d'autorisation. Et ça laisse quand même miroiter le fait que, bon, bah, y a des gens qui vont avoir un espèce de permis, en fait. Et je pense que c'est ça le plus compliqué pour les couples queer, c'est que leur parentalité est soumise à un permis, en fait. Alors que bah, pour tout le reste de la population, c'est soumis à un accident potentiellement. Et donc, c'est le.
C'est là le gros enjeu. Hein. Par rapport à ça. Oui, et c'est là le gros enjeu parce que clairement, aujourd'hui, on n'a pas un accès équitable à la parentalité.
Tout à fait. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de pouvoir se dire que. Les questionnements et le travail et l'information qu'on fait autour de ça visent à se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de raison que ce soit inéquitable. Et je pense que des générations à venir, la question ne se posera pas. C'est juste qu'il faut que la France rattrape son retard et que la frilosité du Sénat, personnellement, moi, je ne me l'explique pas aujourd'hui parce qu'on est entouré de pays limitrophes qui comprennent la situation. Qui se font un business dessus, bien évidemment. Mais en même temps, à partir du moment où il y a des pays qui empêchent, bah forcément, d'autres font un business.
Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Bon, on va en revenir aux enfants, du coup, parce qu'on a un peu dévié du sujet. Et il y a une dernière question que moi, je me posais, et c'est ça qui me paraît le plus difficile à expliquer à mes enfants. C'est comment et pourquoi des enfants se retrouvent enrôlés dans ces manifs encore aujourd'hui. Parce que oui, c'était le cas il y a 9 ans, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que pour nos enfants, ce sont leurs alters égaux et ils ont une voix, tu vois, alors qu'en fait, c'est pas leur propre pensée.
Bah, c'est très souvent le cas avec les enfants. Je pense que concrètement, il faut être aveugle pour ne pas voir que nos enfants répètent exactement ce qu'on dit. Je veux dire, jusqu'à très tard, les enfants vont répéter nos propos.
Complètement. Mais pour un enfant face à un autre enfant, tu vois, c'est pas simple.
Bah non, pour un enfant par rapport à un autre enfant, en fait, il va y avoir un conflit de valeurs qui va être un conflit de valeurs des parents qui va être dans la bouche des enfants, en fait. Et donc, et c'est là aussi que la violence va pouvoir même arriver, parce que quand on va dire à un enfant, enfin, quand un enfant va dire à un autre, de toute façon, mes parents, ils m'ont dit ça. Ouais, ben moi, mes parents, ils m'ont dit ça. Bah, tes parents, ils sont cons. Bah non, c'est le tien. Et en fait, ça peut partir sur une bagarre comme ça, alors qu'en fait, eux, ils n'en pensent rien, seulement dans la loyauté par rapport à la famille. forcément, on ne peut pas, avant assez longtemps, se distancer, en fait, de ce que pensent nos parents. Le fait est que l'enrôlement des enfants dans les mouvements existe. Je pense que si on... Peut-être qu'on, même en 10 ans, par exemple, hein, quand on prend nos enfants dans les manifs, dans les prides, on peut dire qu'on les enrôle. Alors, le fait est que on visibilise nos existences. Très probablement qu'on a des éléments de langage, bien sûr, qui nous permettent une argumentation. Et je pense que ça, c'est le propre de chaque... j'ai envie de dire lutte, mais je pense qu'on peut dire ça. De chaque lutte, on a évidemment des éléments de langage qui nous permettent d'être compris, en fait, par la majorité, enfin, ce qu'on espère. Et donc, globalement, par rapport aux enfants qui vont avoir des valeurs opposées, je pense que ça va toujours être le sujet de se dire, OK, tu vas peut-être rencontrer des gens, et peut-être que ça peut être ça aussi. C'est, si jamais, lors des premières interventions ou lors des situations où il y a déjà eu des mots qui ont pu se produire, c'est, tu vas peut-être être confronté à des gens qui vont penser comme ça, et tu as différentes options pour sortir de cette discussion, pour éviter ça, en fait, et pour éviter d'être là-dedans. Parce que les gamins qui sont enrôlés au truc de la manif pour tous, ou les adolescents même, etc., ils sont, quand je vois le compte de la génération « On ne lâche rien », et quand tu vois ce qu'ils mettent en place, c'est du dogmatisme par rapport aux adolescents qui les suivent. C'est du drill toutes les semaines par des réunions, plusieurs fois par semaine, avec des éléments de langage, avec des machins... ça me rappelle un peu les survivants à l'époque, je ne sais plus si tu te souviens de ce mouvement-là.
Ouais, c'est du bourrage de crâne.
Vraiment du bourrage de crâne, en fait, où ils finissent par y croire, mais parce qu'en fait, ça va tellement avec, sûrement, les valeurs familiales aussi, et donc la loyauté qui va derrière. La loyauté familiale est quand même un des moteurs hyper puissants, parce que c'est de la pression sociale aussi. En fait, tu peux difficilement, en fait, te distancer à ce point de tes parents en disant, écoutez, vous êtes vraiment de vieux réacs, en fait, c'est pas possible à ce point-là. Mais pourtant, ça arrivera. Pour une large majorité d'entre eux, c'est ce qui va se passer. Alors, peut-être pas aussi frontalement que ça, mais ça arrivera, en fait. Il va évidemment y avoir des enfants qui vont se distancer de ce que pensent leurs parents et dire, mais dans quel milieu je suis tombée, quoi. Mais n'empêche que ça demande une sacrée dose de recul. Et la dose de recul, elle arrive généralement aux alentours de 14, 15, 16 ans, quoi. Et puis souvent, quand ils sont confrontés peut-être eux-mêmes à leurs expériences et à leurs attirances personnelles, etc., en sachant que l'adolescence est de plus en plus fluide, qu'aujourd'hui, on expérimente d'autant plus, etc., et ben en fait, ça va être peut-être dans ce sens-là. C'est, voilà, globalement, quand j'en parle avec certaines personnes plutôt jeunes, c'est tout le monde dit, mais en fait, on s'en fout d'avec qui on est ou de ce qui nous attire, en fait, hein, peu importe, l'important, c'est l'amour, quoi. Et quand j'entends ça, moi, moi j'ai mon cœur qui fait genre, oh oui, bonheur.
Mais c'est ça.
Et voilà.
Ça a tellement avancé.
Donc je me dis, voilà, je pense que clairement, il y a de l'endoctrinement. Il n'y a pas que ça, heureusement.
Et alors, si on synthétise un petit peu ce qu'on vient de voir ensemble, et est-ce que tu pourrais nous donner les tips, en fait, enfin les petits conseils, enfin nous rappeler les conseils pour parler à nos enfants de façon synthétique, et peut-être nous donner un peu des pistes de lecture ou des pistes, des ressources pour nous guider un peu plus, pour aller au-delà.
Oui, bien sûr. Alors, la première chose que je rappelle, donc, c'est vraiment s'orienter sur le ressenti de l'enfant, de ce qu'il a pu percevoir, lui, de sa crainte, des craintes qui peuvent témoigner, etc. Des craintes, et quand je parle de craintes, c'est aussi des témoignages d'anxiété qu'il peut y avoir hein, chez les tout-petits, quand ils nous voient en colère, etc., ou qu'ils nous voient anxieux par rapport à quelque chose, là, comme ça a pu se produire, par exemple, par rapport à la décision du Sénat. Ça va être de focaliser plutôt sur leur réaction émotionnelle à eux, c'est de mettre en mots ce qu'on pense qui cause le problème, et ça va être d'expliquer succinctement les raisons pour lesquelles nous, on se sent mal, et de leur dire que de toute façon, c'est des trucs de grands, et que de toute façon, on fait en sorte que tout aille bien, et qu'ils peuvent se rassurer par rapport à ça. Quand ils grandissent, ça va être vraiment de pouvoir s'orienter sur le discours qu'eux ont, sur les craintes qu'eux peuvent avoir par rapport... à ce qu'ils ont perçu de la situation, donc vraiment s'orienter vraiment sur leur perception à eux, et évidemment, en fonction de l'âge grandissant, leur perception va évoluer, changer, leurs craintes vont changer, leurs questions vont évoluer, et donc, je pense que de répondre le plus authentiquement possible en accent sur le fait que ces personnes-là ont des valeurs différentes, et d'essayer de comprendre, et d'entrer vraiment très fondamentalement en empathie avec eux, et en essayant de ne pas juger en disant bah, de toute façon c'est des cons, ils pensent pas, et bien sûr qu'on peut penser ça et que c'est beaucoup plus facile d'évoquer ça comme ça. Par ailleurs, ça ne permet pas aux enfants de pouvoir comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Alors si on explique et si on permet de comprendre comment est-ce que d'autres personnes peuvent fonctionner différemment, ça permet aussi d'ouvrir la discussion par ailleurs, de se dire « Ok, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça, on a des fils perceptifs différents et des pensées différentes, peut-être qu'on peut trouver un chemin commun ou en tout cas au moins s'ignorer. » Et pour les ados, ça va être de pouvoir, donner des arguments, donner la possibilité de s'exprimer par rapport à ça, partir de leurs ressentis, favoriser la communication par rapport à eux, qui sait, investir dans ce cas-là. L'engagement par rapport aux associations aussi, faire intervenir. Si on sait que par exemple dans un lycée ou dans une classe, etc., il va y avoir des propos extrêmement violents qu'on peut tenir, c'est ok, quelle association on peut faire intervenir pour faire comprendre plus de choses de manière collective. Donc en gros, il va y avoir un soutien aussi d'un point de vue de l'encadrement aussi. Ouais. C'est que l'encadrement ne doit pas laisser pourrir les situations. Et je pense que c'est là que c'est important, c'est qu'on a tous une responsabilité commune par rapport à ça. Comme on laisse pas un enfant, un chien ou un humain se faire battre dans la rue, eh ben, on va pas non plus laisser des adolescents ou des enfants se faire traiter de fils de Gwyn ou de filles de Gwyn à la récréation, quoi, en fait.
Ouais, d'accord. Très simplement. Ouais, clairement. Et le système éducatif a un rôle hyper important à jouer. Et c'est vrai que des fois, il se dédouane. Et là, je pense que c'est à nous, parents, d'aller remettre les points sur les i.
Mais complètement. Et je pense que le système éducatif est important parce que la majorité des enfants sont scolarisés et que donc, forcément, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Et qu'il y a zéro valeur transmise par l'éducation nationale. C'est totalement faux. Bien sûr qu'il y a des valeurs. Et heureusement qu'il y a des valeurs qui sont transmises par l'éducation nationale et que ce n'est pas uniquement des valeurs républicaines.
Mais complètement. Ont
d'ailleurs un peu vidé de leur sens. Mais il y a un besoin, clairement, que l'encadrement soit dans l'empathie, dans l'accueil, dans la compréhension et dans la proactivité ou au moins dans la réactivité quand il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Ouais, et en tant que parent, je pense que vraiment, il ne faut pas hésiter à se dire, ok, là, ça sent l'oignon, voilà telle association, voilà telle ressource, voilà tel truc, tel panneau, je vois le collectif famille qui met à disposition maintenant, voilà, à disposition des ressources d'information, de communication, etc. par rapport à ça, et d'aller voilà piocher justement les ressources qui existent déjà pour sensibiliser les jeunes et moins jeunes publics, hein, parce que clairement, et il faut le faire de manière extrêmement pertinente, parce qu'en effet, il y a encore des gens qui vont croire à des espèces de propagande homosexuelle, ça me fait toujours rire quand même ça. Et alors, d'un point de vue lecture, je pense qu'on peut s'orienter sur tout ce qui est prise en charge des discriminations et du racisme, et donc il y a le livre de Rokhaya Diallo, c'est Comment parler à nos enfants du racisme, qui donne, alors déjà, de toute façon, le racisme étant un problème de société, touche déjà quelque chose d'intéressant, mais surtout la manière d'aborder les choses qui va pouvoir aider par rapport aussi à toutes les discriminations, donc ça peut être généralisé aussi à l'homophobie. Et il y a aussi un livre vraiment chouette, alors qui peut vraiment, c'est comment parler des choses dures à nos enfants. Alors, j'ai pas le titre exact en tête, c'est de Florence Millot, et c'est Comment parler à nos enfants des choses graves ou quelque chose comme ça. Et en gros, elle a fait un podcast récemment dans Les adultes de demain, où elle parle justement des 7 portes, comment est-ce qu'on communique avec l'enfant aussi, comment est-ce qu'on va le retrouver dans sa perception à lui, etc. Enfin, globalement, j'ai fait de très gros résumés de ce qu'elle propose, mais elle détaille vraiment step by step par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une manière de parler, je sais pas moi, quand il y a un vécu traumatique, quand il y a des événements de société, un attentat, etc. Où là, en effet, on peut parler de divorce, des périodes de chômage, en gros, tout ce qu'on perçoit comme étant difficile à communiquer. Elle en a fait un bouquin qui peut être intéressant par rapport à ça.
D'accord, ok. Ok. Bah, tu sais quoi, je pense que je vais aller très très vite les chercher. Ça va être mes prochaines lectures.
Bah, écoute,
je te remercie beaucoup en tout cas, Natacha. Je pense qu'on a fait, on a bien dégrossi le sujet. C'est de toute manière, je pense qu'il est hyper vaste, donc on pourrait discuter des heures. Là, l'idée, c'était surtout de commencer à donner des petites astuces, des tips, et savoir surtout comment s'orienter. Et ne pas laisser parler notre colère à nous avant le bien-être de nos enfants, quoi, finalement.
Bah après, et cela dit, je suis quand même assez pour le fait d'accepter sa colère et de dire qu'on peut être en colère, en fait. Hein. Le tout, c'est que la colère, on peut en faire quelque chose, en fait. Et c'est juste de passer totalement bouffé et anéantir par la colère, et ensuite ça deviendrait une colère destructrice, mais un truc qui peut être constructif. Peut-être que c'est là aussi un bon exemple qu'on peut donner aux enfants en disant « Ok, tu peux être en colère, et puis qu'est-ce qu'on fait de la colère, quoi ?» Et ça peut être de faire un dessin, une manif où on va tout gribouiller en étant extrêmement en colère, en pouvant être vraiment très véhément même dans ses propos, pour faire sortir les trucs, en fait. Mais on le fait du coup en famille, dans un mode de jeu, et on va pouvoir se défouler et faire bouger les choses aussi, en disant « Tiens, et qu'est-ce qu'on fait alors maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ?» Et puis voilà, et réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on fait en famille pour faire sortir la colère qui est mobilisée par des gens qui vont essayer de considérer qu'on n'existe pas. Voilà.
Oui, non, mais tu as complètement raison. C'est vrai que ça peut être une bonne astuce aussi de partir de là, de ce que nous aussi on ressent.
Oui, tout à fait.
Bon, mais je te remercie beaucoup, Natacha. Ce que je fais, c'est que je vais inviter nos auditeurs à te retrouver sur ton compte, donc la curiosité bienveillante sur Instagram. Comme je vous le disais en début d'épisode, Natacha, elle aborde tous les sujets qui tournent autour de la parentalité, qu'elle soit queer ou non, en fait, de la parentalité en général.
Tout à fait.
Et c'est une mine. Ce compte est une mine. Merci, Natacha.
Merci beaucoup. Merci, Constance. À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Épisode que j'aurais aimé ne jamais avoir à enregistrer. Cet épisode apporte des réponses au traitement de nombreuses discriminations. Alors si vous pensez qu'il peut servir à quelqu'un ou qu'il peut aider votre entourage ou l'entourage de quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Pour passer sur un sujet plus léger, vous le savez sûrement, je vous prépare un épisode surprise pour la Saint-Valentin, donc je vous donne rendez-vous dimanche pour la diffusion de cet épisode spécial Saint-Valentin. À dimanche! While you watch the people speaking words you can't quite comprehend, you ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.